de prendre avec moi dans la parole de Dieu ce matin dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37.
Alors, on ne lira pas tout le chapitre 37 parce qu'il est assez long. On doit voir le chapitre 37 et 39. Je vais résumer. Je vais brosser un petit peu un tableau du chapitre 37. D'abord, dans les premiers versets, on nous apprend que Joseph a 37 ans. Joseph a 37 ans. Il va faire paître les troupeaux avec ses frères, les troupeaux de son père avec ses frères. Et on apprend aussi au verset 3 que Jacob aimait davantage, aimait plus. Excusez. C'est bon? OK. Comment j'ai dit? Bon, entre 17 et 37. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas jouer avec les chiffres dans la parole. Hein? C'est important. Désolé. J'avais dit Genèse 37 et j'ai répété après ça 37 ans. Merci. Okay. Mais c'est bien que les gens nous reprennent comme ça, hein, parce que ça ne prend pas grand-chose pour s'écarter. Hein? Alors, le texte au verset 3 nous apprend que Jacob aimait davantage Joseph, plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il avait fait une tunique de plusieurs couleurs. On va voir à quoi sert la tunique. Elle correspond à quelque chose de bien particulier. Pourquoi il a fait une tunique de couleurs différente à son fils Joseph et qu'il n'en a pas fait à ses autres enfants? Il y a une raison à cela. On va voir ça dans le texte tantôt. Et ses frères, eh bien, ils sont pas fous. Ils voient que leur père aime davantage Joseph qu'il peut les aimer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ils vont le prendre en haine, ils vont le détester, ils vont le jalouser. Ils sont pas d'accord à ce que le père préfère Joseph plus qu'eux, en plus ceux qui sont plus aînés, qui sont plus âgés que Joseph. Et le texte biblique nous dit au verset 4 qu'ils vont le détester au point qu'ils ne peuvent même plus lui parler avec amitié. C'est grave ça quand on est rendu là, hein? Ça, c'est on se retient presque de ne pas grincher des dents quand on est en face de la personne, quoi. On détestait vraiment Joseph. Et là, Joseph va commencer à avoir des songes. Et il va raconter à ses frères un songe, entre autres les gerbes. Et dans ces gerbes, il dit, écoutez, moi j'étais une gerbe, j'étais la plus haute parmi vous autres, vous étiez les 11 gerbes, vous étiez autour de moi. Et moi j'étais la plus haute des gerbes et vous prosterniez devant moi. Alors, paf, un autre coup dans les reins des frères. Les frères, ils l'ont pas pris. Ils ont dit, il se prend pour qui, lui? Il se sent supérieur à nous. Et là, Joseph, il va faire un deuxième songe. Et le deuxième songe, eh bien, on le trouve au verset 9. Et là, il raconte à ses frères qu'il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles. Et là, il va dire que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Et là, eh bien, il va raconter ça à son père et à ses frères. Et là, son père, il va le réprimander. Son père n'est pas d'accord que ce soit juste les frères qui étaient impliqués dans le premier songe chalet. Mais là, que Jacob soit impliqué en plus, eh bien, Jacob, il ne le prendra pas. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, Joseph va être trahi par ses propres frères et il va être vendu comme esclave pour moins de 100 euros à des marchands ismaélites, c'est-à-dire pour le prix d'un esclave estropié. À ce moment-là, à l'époque, 100 euros, c'était un esclave qui n'était même pas en bonne santé, un esclave estropié. Les ismaélites avaient amené Joseph en Égypte et qu'est-ce qu'ils vont faire les ismaélites? Ils vont le prendre, c'était des trafiquants. Le texte biblique dit « marchand », mais le mot hébreu aussi, « marchand, trafiquant », eh bien, c'est synonyme dans le texte ici. Et ils vont le prendre, eux. En fait, il n'y en avait rien à cirer de Joseph. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre pour en tirer un bénéfice. Frères et sœurs, essayez de vous mettre dans les souliers de Joseph pendant quelques instants. Vous avez 17 ans. Vous êtes le favori d'une famille de 12 garçons. Votre père vous a choisi pour être à la tête d'une famille et pour confirmer sa décision, il vous a donné une belle tunique. Pas de doute, vous êtes en route pour la gloire. Vous vous imaginez tous les biens, on a vu la semaine passée, tous les biens que Jacob possédait. Et Joseph, de par la tunique qu'il portait, il savait qu'il hériterait de toutes ces choses, qu'il serait le chef de la famille. Il savait qu'il deviendrait un homme puissant, influent et important au sein de sa famille. Puis en un instant, mettez-vous à sa place, en un instant, tous vos rêves d'avenir s'envolent. Des gens qui sont censés vous aimer vous enlèvent votre tunique. Vous trahissez et vous séparez de votre père en vous vendant comme esclave à des trafiquants qui vous amènent dans un pays étranger. Imaginez l'humiliation qu'il a subie. Il arrive en Égypte, il est exhibé publiquement, examiné par tous et chacun lors d'un encamp des esclaves qui sont à vendre, au plus offrant. Imaginez tous les mensonges qu'il doit avoir entendus de la part de Satan. « Toi, tu étais le favori de ton père. Toi, écoute, on t'avait promis de te donner ci, de te donner ça, de te donner ci, de te donner ça. » Vous imaginez tout ce qui s'est passé dans la tête de de cet enfant. Et c'est souvent la même chose pour nous. Quand le diable vient nous jeter, toi, tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a promis de te donner telle chose. Dieu t'a promis de t'accorder le pardon de tes péchés. Dieu t'a promis de te donner la vie éternelle. Regarde dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Hein? Dieu t'a promis de faire ci, Dieu a promis de faire ça avec toi. Et qu'est-ce qui arrive? On a deux choix. Soit qu'on va réagir comme Joseph, et soit qu'on va réagir comme le commun des mortels si on marche par la vue. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce ce matin. Te rendre grâce, Seigneur, parce que tu nous dis que ta parole est la vérité, que ta la parole, Seigneur, elle est là pour nous fortifier, pour nous éclairer, pour nous montrer combien tu nous aimes et pour nous montrer combien tu es à nos côtés jour après jour. Même si nous ne te voyons pas, Seigneur, tu as choisi de venir habiter dans nos cœurs. Et à travers ta parole, tu parles à nos cœurs. À travers nos frères et sœurs, Seigneur, tu nous parles. Et nous voulons te remercier pour cela parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu es devenu notre Père, notre bon Père céleste. Et ce matin, Seigneur, eh bien, avant de commencer ce message, nous voulons te demander pardon. Pardon si tu n'occupes pas toujours la première place qui te revient dans nos vies. Pardon, Seigneur, si souvent nous marchons par la vue, par nos sentiments, par nos impressions, et qu'il nous arrive de sombrer dans le découragement, dans le désespoir. Pardon, Seigneur, d'oublier tes promesses qui nous permettent de vraiment vivre en espérance d'un monde meilleur pour chacun de nous. Seigneur, à travers Joseph, ce matin, encourage-nous, fortifie-nous et amène-nous à réaliser, Seigneur, combien tu es présent dans chacune de nos vies, jour après jour, que tu es à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, afin que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi et non pas sur les circonstances de la vie qui sont pesantes et décourageantes. Merci pour Jésus ressuscité. Merci pour ce Fils bien-aimé que tu nous as donné. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. À première vue, il semble que les circonstances ne pouvaient pas être plus pires pour le jeune Joseph. Imaginez, là, il n'y a pas 35 ans, ce n'est pas un gars d'âge mûr qui a un bagage d'expérience derrière lui qui va affronter une situation semblable. C'est un bonhomme de 17 ans. Qui a 17 ans et moins ici, là? Ruben. Alors, prenez Ruben, regardez le bagage d'expérience qu'il a ce matin, et imaginez-vous que Dieu lui permet de vivre cette situation-là ce matin. Qu'est-ce qu'on se dirait? On regarderait Ruben, on se retiendrait pour pleurer, puis on se dirait en dedans de nous, mais pauvre Ruben. Qu'est-ce qui l'attend? Mais Ruben, si c'est un gars qui a la foi en Jésus-Christ, si c'est quelqu'un qui a la foi en Dieu, eh bien, il sait que Dieu, tout ce qu'il lui a promis à travers les songes, va se réaliser. Et il va continuer à marcher, il va faire confiance au Seigneur. Mais 17 ans, pensez-y, 17 ans. Et ici, on aurait pu penser que tous les rêves de Joseph étaient brisés. Mais le Dieu qui lui avait donné dans un premier temps ses rêves agissait dans les coulisses pour s'assurer que tout s'accomplirait en son temps. Frères et sœurs, ce qui se passe à l'extérieur, c'est épouvantable. Mais rappelez-vous, Dieu nous a fait des promesses, Dieu nous a promis que les moments, les temps que le monde vit présentement, on le vivrait. Et moi, je vais vous dire ce que Joseph avait comme idée dans sa tête, c'est qu'il savait que dans les coulisses, il y avait l'assurance que Dieu agissait. Et on peut avoir l'assurance en voyant le monde, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, que Dieu, ce qu'il a promis, va le réaliser. Dieu agit dans les coulisses. Dieu travaille pour faire en sorte que peu importe qui, que ce soit des païens, que ce soit des non-croyants, eh bien, même s'ils font leur volonté, ils accomplissent quand même le plan de Dieu. Ils poussent quand même le plan de Dieu à se réaliser dans le monde dans lequel on vit. En vérité, ces jours difficiles, frères et sœurs, étaient pour Joseph un marchepied sur le chemin qui allait le conduire vers le ministère que Dieu lui avait promis. Si à vue humaine, tous les ennuis que connaissait Joseph semblaient montrer que son cas était désespéré, il est écrit que, Genèse chapitre 39, ça c'est notre deuxième passage ce matin, 39, verset 2. Ça, c'est encourageant, frères et sœurs, pour vous. Si vous avez votre Bible ce matin tournée, dans Genèse, chapitre 39, verset 2. Permettez que j'enlève mon manteau. Merci. Ah, je sais pourquoi ça ne tourne pas ici, là. l'Éternel était avec lui. Genèse chapitre 39, verset 2. L'Éternel était avec lui. C'est tout ce qui comptait pour Joseph. L'Éternel était avec lui. Il y a une grande vérité qui ressort de ce verset. Lorsque survient l'épreuve, Dieu est toujours avec ceux qui lui obéissent. Il veut voir son plan s'accomplir dans chacune de leurs vies afin de les utiliser pour se glorifier à travers eux. Et pour ceux qui ne sont pas tellement familiers avec les termes bibliques, quand on dit que Dieu veut se glorifier à travers quelqu'un, c'est que Dieu veut montrer qu'il est présent, c'est que Dieu veut montrer sa puissance, et Dieu veut montrer finalement ses attributs, c'est-à-dire son amour, sa patience, sa bonté, sa compassion. Ça, c'est quand Dieu veut se glorifier. C'est extraordinaire qu'on rentre dans un lieu un matin et qu'on se dit, écoute, j'ai la conviction que Dieu est présent. Ça, c'est la gloire de Dieu qui vient de se manifester. Il y a une guérison, il y a un témoignage extraordinaire. Dieu, j'ai la conviction que Dieu vient de manifester sa gloire, c'est-à-dire qu'il vient de manifester sa puissance. Il agit dans le cœur de quelqu'un et cette personne, elle le proclame du haut de la chair. Ou dans la salle. Dieu manifeste sa puissance, Dieu manifeste sa présence et Dieu veut se glorifier à travers vous, à travers moi. Rapidement, en examinant ce matin les premières années d'esclavage de Joseph, nous allons voir de quelle manière le Seigneur a montré à Joseph qu'il était avec lui. Deuxièmement, ce que le Seigneur a fait pour Joseph, il le fera également pour vous et moi. Pour vous et moi, frères et sœurs. Vous êtes convaincus de tout ça ce matin? Oui. Dieu ne préférait pas Joseph par rapport à vous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu vous aime autant, vous, qu'il m'aime moi et qu'il aimait Joseph. Et ça va plus loin que ça, parce que c'est Jésus même qui l'a dit. Le Père vous aime autant qu'il a aimé Jésus. C'est extraordinaire de savoir ça. Vous imaginez? Il est pourtant venu sur la terre sans péché, il était parfait. Dieu aurait pu le préférer à nous tous, mais ça sort de la bouche de Jésus. Jésus dit, tu m'as aimé, tu les aimes autant que tu m'aimes, dans l'évangile de Jean. C'est extraordinaire de penser à ça. Et on comprend pourquoi Dieu a fait de nous ses co-héritiers. S'il nous aime autant qu'il aime Jésus, tout ce qu'il a donné à Jésus, il va nous donner à nous. Mais s'il nous avait aidés moins, il aurait fait comme certains parents font avec leurs héritiers. Donne un quart à un, donne une demi à l'autre et un quart à l'autre. Mais non, Dieu nous donne de façon égale l'héritage qu'il a donné à Jésus-Christ. Chapitre 37, verset 36, la destinée de Joseph était entre les mains de Dieu. Premièrement, comme je viens de le mentionner il y a un instant, tout semblait perdu pour Joseph. Pourtant, si vous prenez le temps d'examiner les faits, il est évident que la destinée de Joseph était entre les mains de Dieu. Si vous réfléchissez à tout ce qu'a vécu ce jeune homme de 17 ans, il est impensable de ne pas voir la main de Dieu derrière cela. Considérez l'intervention de Ruben. Pourquoi Ruben a empêché ses frères de le tuer? Pourquoi il a empêché de tuer? Et qu'il va proposer plutôt de jeter dans une citerne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait à gagner? Rien. Deuxièmement, l'idée que Judas qui propose de vendre Joseph comme esclave, ça lui donnait quoi? Ça leur donnait quoi de faire ça? Tout le monde était d'accord à un moment donné pour le faire disparaître, sauf Ruben. Et après, il y avait une idée que de quelqu'un disait, on va le vendre comme esclave. Et on voit que Dieu est derrière tout ça. Et ensuite de ça, le fait que c'est pas le hasard qu'il y a des trafiquants ismaélites qui passent et qui finalement vont accepter de le prendre comme esclave, de l'acheter pour 100 euros. Ensuite de ça, le fait qu'il ait été vendu à Potiphar, qui est le capitaine des gardes de Pharaon, qui était à la tête de la police secrète de Pharaon. Il était responsable de protéger le chef du pays, de neutraliser tous ceux qui voulaient attaquer le Pharaon. Pourquoi Joseph n'a pas été vendu à un petit chef de campagne? Pourquoi il est allé, c'est Potiphar qui l'a acheté? Frères et sœurs, quand vous marchez par la foi, vous vous dites, moi j'obéis au Seigneur, j'obéis à sa parole, je n'ai rien à craindre. C'est ce que le psalmiste répète régulièrement dans les psaumes. Je n'ai rien à craindre, Dieu est du côté de ceux qui lui obéissent. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, Dieu est en train de tracer la route qui va préparer le ministère de Joseph. Ah, il aurait pu dire, hey, c'est le diable qui est derrière ça. Il y a combien de chrétiens, à chaque fois qu'il leur arrive une malchance, le diable m'a couru. Le diable doit être derrière ça. Jamais, en aucun temps, quand vous lisez toute la vie de Joseph, jamais il va dire que c'est le diable qui l'a fait manger toute cette misère. Jamais, jamais, jamais. Et on va voir au chapitre 45, en terminant tantôt, ce qu'il va dire à la place. Joseph, c'était un homme de foi. Et je pense qu'à travers l'expérience qu'il a vécue, c'est encourageant, fortifiant pour nous de dire, Seigneur, viens au secours de ma foi. Elle est tellement faible, cette foi. Seigneur, viens augmenter la mesure de ma foi. Je suis tellement porté à suivre mes sentiments, à suivre mes impressions, et je pique du nez, Seigneur. Je suis comme une poule sans tête. Je ne sais pas me diriger à ce moment-là. Mais Seigneur, que le témoignage de Joseph, parce qu'il y a le témoignage de Jésus, mais souvent on dit, oui, mais c'était Jésus. Mais là, prenons Joseph. C'est un simple être humain. C'est un être humain comme vous et moi. C'est un jeune homme de 17 ans, comme vous avez déjà eu 17 ans dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de placer sa foi en Dieu. C'est quelqu'un qui a cru dans les visions que Dieu lui avait données, dire ça, c'est ce que Dieu me promet, sans savoir exactement ce qui l'attend. Frères et sœurs, la Bible est remplie de promesses pour vous et moi. On ne sait pas ce qui nous attend réellement, jour après jour, semaine après semaine. On va avoir des épreuves. Il y en a qui vont nous tomber radicalement sur le dos comme une tornade, comme un cyclone. Mais si on marche dans la vérité, si on obéit au Seigneur, on peut lui faire confiance. Dieu ne nous décevra pas. Dieu est en train de préparer quelque chose de meilleur pour chacun de nous. Vous dites « Amen » à ça? C'est important que vous saisissiez ça ce matin. Frères et sœurs, on a quelque chose de plus que les gens du monde ont. Hey, on a les promesses de Dieu. On a les promesses de Dieu. Vous dites « Amen » à ça. C'est important. Frères et sœurs, en vertu de sa position, Potiphar était en contact avec les hauts fonctionnaires et dignitaires politiques égyptiens. Il n'est pas impossible que Joseph ait été à un moment donné en contact avec ces personnes influentes qui plus tard vont le serviraient lorsqu'il sera à la tête de l'Égypte. Dieu a tout mis en place exactement comme cela devait être afin que Joseph arrive là où il devait être et ce, au moment précis où il avait besoin d'être là. Jésus est arrivé à un moment bien précis dans l'histoire. Il est arrivé au moment où il devait être là. Vous êtes arrivé à un moment bien précis dans l'histoire. Moi, je suis arrivé en 1949. D'autres sont arrivés en 2000 passé. Mais on est arrivé au moment où Dieu avait prévu qu'on arriverait. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard en Dieu. Et ce qu'on vit ensemble, eh bien, Dieu savait de toute éternité qu'on le vivrait ensemble, dans notre génération. Et Dieu sait d'avance ce qui va se passer dans la génération suivante si le Seigneur Jésus n'est pas revenu chercher son Église. Joseph peut être un esclave, mais sa destinée était entre les mains de Dieu. Joseph peut avoir été séparé de son père terrestre, mais son père céleste était avec lui, il avait déjà précédé en Égypte. Dieu est en contrôle de toutes choses. Les frères de Joseph, les trafiquants ismaélites et Potiphar servaient tous leurs propres intérêts égoïstes. Mais vous pouvez voir jusqu'à quel point Dieu est en contrôle de toutes choses, frères et sœurs, lorsque vous voyez le déroulement des événements et les personnes qui y sont impliquées. Ses frères voulaient se débarrasser de Joseph et de ses rêves. Les ismaélites ne visaient qu'à faire une bonne affaire en achetant Joseph et en le revendant aux plus offrants comme esclave. Ce que tout ce beau monde ne pouvait pas voir, c'est qu'ils étaient tous en train d'accomplir le plan parfait de Dieu. N'est-il pas réconfortant de savoir, lorsque nous marchons dans la vérité, que Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses plans? N'est-ce pas une bénédiction de savoir que tout ce qui survient dans nos vies fait partie du plan de Dieu pour nous, que Dieu a pour nous? Bien que les situations dans lesquelles se trouvait Joseph semblaient être hors de contrôle, Dieu pourtant était en contrôle de toutes les situations, car voyez-vous, Joseph était protégé par le Seigneur. Remarquez de quelle façon il le protégeait. Genèse chapitre 39, verset 2, Dieu le protégeait en étant présent à ses côtés. L'Éternel était avec Joseph. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte biblique. Hein? Genèse chapitre 39, verset 2, L'Éternel était avec Joseph, celui-ci réussissait à tous égards. Dieu le préparait à dépendre de lui. Il n'y a rien dans le texte biblique, dans toute la vie de Joseph, qui nous montre que Joseph était en colère contre Dieu, que Joseph nourrissait une amertume parce que ça ne se déroulait pas comme lui pensait que ça se déroulerait, pour que ses visions, il voit ses visions finalement se concrétiser. Il acceptait même toutes ses épreuves sans dire un mot, sachant que Dieu était à ses côtés. Dieu bénissait ceux qui étaient en contact avec Joseph. Et frères et sœurs, quand on marche dans la vérité en tant que chrétien, ceux qui marchent avec nous, frères et sœurs, reçoivent des bénédictions. C'est important. Moi, quand je dis à un non-croyant, écoute, que Dieu te bénisse, je ne me le dis pas pour me moquer de lui, je le dis parce que je donne autorité à Dieu d'agir dans sa vie. Il ne dira pas amen parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est peut-être un athée qui ne croit même pas en Dieu. Mais quand je dis à un non-croyant que Dieu te bénisse, eh bien, je suis en train de lui dire, écoute, je viens de donner autorité à Dieu de provoquer des choses dans ta vie pour que tu te réveilles et puis que tu tournes tes yeux vers lui, que tu réalises qu'il est vraiment vivant et jusqu'à quel point il t'aime. On a le droit de le dire. Hein? Ce n'est pas marqué dans la parole qu'on doit dire « Dieu te bénisse » uniquement aux enfants de Dieu. Et ça peut être un déclic pour certaines personnes. Il y a combien de témoignages qui, suite à ça, il y a des gens, ça les a éveillés à la parole de Dieu. Comment cet homme-là peut-il me dire que Dieu te bénisse? Comment cet homme-là, cette femme-là peut-il me dire, peut-être me dire que Dieu te bénisse, moi qui ne crois pas en Dieu? Et combien de témoignages on a qu'il y a des gens qui ont cheminé avec ça? Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui surviennent dans nos vies qui n'ont aucun sens, mais cela ne change pas le fait que Dieu est en contrôle de tout ce qui nous arrive. Il fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu lui-même. L'obéissance au Seigneur peut nous amener à vivre des tempêtes terribles. Et ça s'est révélé dans la vie de Joseph. Ce fut également vrai pour le Seigneur Jésus-Christ. Et Ésaïe 53, 10 nous dit, « Et Dieu a approuvé son serviteur accablé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. » Et comme je vous l'ai dit, le but de Dieu dans les épreuves n'est pas de nous faire du mal, mais de nous faire progresser dans notre foi. Nous pouvons nous faire confiance, frères et sœurs, pour nous protéger, nous faire grandir au milieu des épreuves de la vie. Il sait bien quel projet il forme pour nous, et ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Il veut nous donner un avenir à espérer. Notre Dieu est en contrôle de toutes choses. Qui peut lever la main là-dessus ce matin? Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu est en contrôle de votre vie. Frère, c'est ça, quand Joseph a perdu sa tunique, il n'a rien perdu qui faisait de lui un grand homme. La grandeur de Joseph ne provenait pas des vêtements qu'il portait, mais la condition de son cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu, c'est en fonction du cœur, de la disposition du cœur de Joseph que Dieu déversait ses bénédictions dans sa vie et qu'il permettait à son plan de se poursuivre par rapport à Joseph. Il pouvait porter les vêtements délabrés d'un esclave, il demeurait toujours un homme de caractère et d'une grande intégrité. Nous devrions, frères et sœurs, avoir le même témoignage. Nous avons besoin non seulement de gens résolus, mais de gens qui sont intègres. Frères et sœurs, certaines personnes sont différentes ou agissent différemment, tout dépend où vous les rencontrez. Lorsque vous les rencontrez à l'église, elles agissent d'une façon, et lorsque vous les rencontrez en ville ou en vacances, elles sont totalement différentes. Vous vous demandez si vous rencontrez les mêmes personnes. Que ce soit en vacances, que ce soit en ville, que ce soit à l'église. Si notre cœur appartient à Dieu, il ne devrait pas avoir de différence. Je dirais que nous avons besoin d'être les mêmes personnes indépendamment où nous nous trouvons. Nous devrions nous efforcer d'agir correctement en tout temps. Nous devrions déterminer dans nos cœurs que nous aurons une bonne attitude et démontrer le caractère de Christ en tout temps. Frères et sœurs, quand Joseph est arrivé en Égypte, il aurait pu prendre différentes directions. Il aurait pu adopter les us et coutumes des Égyptiens. Il aurait pu adorer les dieux polythéistes des Égyptiens. Mais Joseph a gardé les yeux fixés sur le Seigneur. Car voyez-vous, il peut avoir été acheté par Potiphar. Il appartenait toujours à Dieu. Et il avait décidé, c'était un homme résolu, il avait décidé, quoi que ce soit, peu importe ce qui lui arriverait, eh bien que Dieu serait toujours le premier dans sa vie. Ça ne faisait pas de différence pour Joseph d'être dans la maison de son père, d'être dans une citerne, d'être entre les mains des trafiquants d'esclaves ou d'être dans la maison de son maître. Joseph avait résolu dans son cœur qu'il allait agir toujours correctement. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Joseph a demeuré un homme intègre, peu importe la situation dans laquelle il se trouvait. Et comme Joseph, nous avons besoin, vous et moi, d'établir des limites pour nos vies. Nous avons besoin de nous faire à l'idée qu'il y a des choses que nous ne pouvons tout simplement pas faire en tant que chrétiens. Au niveau de l'alcool, au niveau de la drogue, au niveau de certains films, au niveau de certains langages, au niveau de certaines dépendances, au niveau de la calomnie, au niveau de la médisance. La Bible est claire là-dessus. Ce sont des fruits de la chair, ce n'est pas des fruits de l'esprit. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de la nature humaine. Ensuite, lorsque survient une situation, pardon, nous n'avons pas à nous demander si cela est bien ou non. Nous savons exactement ce que nous devons faire ou ne pas faire. Parce que nous avons déjà pris des décisions dans notre cœur et la question devrait être réglée. Jean qui en parle, homme irrésolu. Tu promets, puis le lendemain, tu fais exactement le contraire de ce que tu as promis à Dieu. Homme irrésolu. Tu es comme un bateau qui s'en va à la dérive. Et tu vas finir par aller te frapper sur les récifs. Tu vas finir par piquer du nez. Ésaïe chapitre 1. Tous ceux qui m'abandonneront périront, dit le Seigneur, périront. Et Paul dit, sache que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront le Seigneur. Versets 2 et 3, il est écrit que Joseph réussissait à tout égard et que l'Éternel lui faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Frères et sœurs, il y a peut-être certains qui voyaient dans ce que Joseph faisait peut-être un coup de chance. Peut-être qu'ils disaient, il était tellement malheureux, lui, il était tellement malchanceux quand il était jeune. Oups, la chance a tourné pour lui. Les gens l'observaient et on disait, il est chanceux ce garçon. Et frères et sœurs, quand on lit le texte biblique, on vient s'aperçoit que la chance n'a rien à voir avec la réussite de Joseph. En fait, la chance n'existe pas, plutôt si, pour ceux qui croient encore aux contes de fées et au Père Noël, mais pas pour les enfants du Dieu vivant. Joseph prospérait parce que Dieu le bénissait. Joseph prospérait parce que Dieu, voyant Joseph, un homme en qui il pouvait avoir confiance pour faire sa volonté. Et lorsque certains disent que quelqu'un est chanceux, eh bien cela ne peut être rien de moins que quelqu'un qui bénéficie de la bénédiction de Dieu parce qu'il agit comme Dieu le demande. Amen. Peut-être que Dieu bénit certains plus que d'autres, parce qu'ils manifestent le caractère de Christ plus que d'autres. Peut-être qu'ils goûtent aux bénédictions parce qu'ils sont intègres. Peut-être qu'ils sont bénis parce que Dieu peut leur faire confiance pour pratiquer le bien. Frères et sœurs, Joseph se trouvait dans une mauvaise situation, mais il continuait à vivre une vie qui était bénie par le Seigneur. Et honnêtement, je ne sais pas, si moi j'avais été à la place de Joseph, un garçon de 17 ans, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Et là, je me place en homme du 21e siècle. L'électricité, l'eau courante, pas besoin de sortir dehors pour aller aux toilettes, serveuse, sécheuse. On a tout le confort. Et là, on vous dit, pour suivre le Seigneur, tu vas passer par là où Joseph est passé. Dans des cellules où tu vas dormir avec des rats. Dans des cellules qui sont humides, qui ne sont pas chauffées. Dans des cellules où il y a un petit trou dans les airs que tu peux voir le rayon de soleil rentrer, la clarté du jour rentrer, qui permet de faire la différence entre le jour et la nuit à certaines cellules. D'autres cellules, il n'y avait pas de lumière qui rentrait. La seule lumière que vous aviez, c'est quand le gardien passait avec une chandelle ou avec un fanal pour circuler dans le couloir. Et vous étiez traité comme un esclave. Le Seigneur, il dit, tu vas avoir un grand ministère. Eh bien, es-tu prêt à passer là où Joseph est passé? Tu vas avoir un grand ministère. Plus ton ministère est grand, plus la souffrance va être importante. Et Joseph devait passer par ces moments difficiles, devait vivre de grandes souffrances pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il devait apprendre à pardonner à ses frères. Si Joseph n'était pas passé par ces moments difficiles, lorsqu'il a rencontré ses frères la première fois, il leur aurait fait tous couper la tête. Mais Joseph, c'est un leader, c'est un dirigeant selon le cœur de Dieu. Joseph, c'est quelqu'un qui a appris, Dieu était compatissant pour lui, Dieu était bon pour lui, Dieu était miséricordieux pour lui, et il va appliquer la même méthode à ses frères que Dieu lui a appliquée dans sa propre vie. Et quand il va les voir, il va voir leur pardonner. Et les paroles qu'il leur dit sont époustouflantes, quoi. Sont renversantes, les paroles qu'il leur dit. Genèse chapitre 45. Allez dans Genèse chapitre 45. On ne verra pas tout le message ce matin, mais Genèse chapitre 45. Vous lirez le reste sur le site Internet. Frères et sœurs, Joseph, ça fait des années qu'il est en Égypte. Il est sorti de prison. Dieu l'a sorti. Par toutes sortes de façons, Dieu l'a sorti de la prison. Il est maintenant l'égal du Pharaon. Le Pharaon ne le regarde pas comme ça, le Pharaon, il le regarde comme ça. La bague qu'il porte au doigt dit qu'il est l'égal du Pharaon. Le Pharaon était considéré comme le fils de Dieu sur la terre. Il était adulé, il était adoré comme un dieu. Et Joseph est nommé comme étant l'égal de Pharaon. Ses frères arrivent en Égypte suite à une famille, en Canaan. Et Joseph, il aurait pu se frotter les mains et dire à ses gardes, ne les laissez pas sortir. Enfin, fait tellement d'années que j'attends. J'attends pour me venger. Mais Joseph, c'est un homme de foi. Joseph, c'est un homme qui était à l'école biblique de Dieu. Et regardez ce qu'il va dire au chapitre 45. Parce que ses frères y ont peur. Chapitre 45, verset 5. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Il faut le faire, ça, hein? Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Ce n'est pas vous qui m'avez conduit ici. Regardez ce qu'il dit. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il dit pas que c'est le diable. Il dit pas que vous avez eu des plans diaboliques à mon égard. Vous avez voulu vous me tuer. Vous avez voulu me débarrasser de moi. C'est Dieu qui m'a envoyé. Frères et sœurs, si vous marchez dans la vérité puis que vous êtes persécutés, qu'il y a des gens qui vous détestent parce que vous mangez dans la vérité, êtes-vous capable de dire, ce bonhomme-là ne fait pas du mal. C'est Dieu qui l'utilise pour me former. C'est exactement ce que Joseph est en train de dire ici. Hein? Tout ce qui m'est arrivé, Dieu vous a utilisé pour se glorifier. C'est ce que Joseph est en train de dire ici. Quel homme de foi! Et pour en arriver là, frères et sœurs, ce n'est pas un gars qui a fait l'Institut biblique, qui a appris dans les bouquins. Il a du vécu, c'est de la pratique. Dieu lui réservait un ministère incroyable. Et Dieu lui a dit, pour en arriver là, tu vas avoir ton lot de souffrance à passer pour être certain qu'un jour tu ne te détournes pas et que tu ne fasses pas un massacre. Parce que je ne suis pas Dieu pour faire des massacres. Moi, je suis un Dieu compatissant. Je suis un Dieu qui offre le pardon. Je suis là, je suis un Dieu qui aime les gens. Verset 8, 45-8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et regardez là, la cerise sur le sundae, verset 20. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur sera pour vous. Et frères et sœurs, pour ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, pour ceux qui veulent y obéir, le meilleur est toujours à venir. Le meilleur, il est toujours à venir. Joseph vivait une situation terrible et pourtant il a su en tirer le meilleur. Il a démontré une bonne attitude alors qu'il vivait des épreuves extrêmement difficiles. Il devait en être de même, il devrait en être de même pour nous, frères et sœurs. Le secret du bonheur dans les moments difficiles dépend de la façon dont vous réagissez face à ce qui vous arrive. Vous avez déjà entendu parler des deux petites souris qui étaient tombées dans un seau de lait frais? Qui a déjà entendu ça? OK, ben je vais vous la raconter. Une des deux souris était tellement en colère d'avoir tombé dans le seau de lait frais qu'elle a perdu espoir, tout espoir de s'en sortir. Elle a gardé les yeux fixés sur la distance qu'elle devait franchir pour s'en sortir et elle s'est noyée. L'autre souris essayait de s'en sortir en se débattant pour finalement voir le lait se transformer en beurre et pouvoir sortir du seau. L'histoire des deux petites souris. Voyez la façon qu'elles ont réagi face à la même situation. Une est morte, l'autre a été libérée. Le bonheur dépend souvent de comment vous gérez votre vie. Si c'est par la vue, frères et sœurs, vous allez être manipulés par vos sentiments, vos impressions. Et à partir de cela, vous pouvez imaginer le pire. Si c'est par la foi que votre foi est basée sur la parole de Dieu, vous savez que Dieu est présent dans vos vies, qu'il vous soutient, qu'il vous prépare. qu'il vous prépare quelque chose de meilleur. Au 17e siècle, le prédicateur baptiste John Bunyan fut jeté en prison en Angleterre pour avoir prêché l'Évangile parce qu'il n'avait pas de diplôme théologique. Il demeura 12 ans en prison parce qu'il refusait de promettre qu'il ne prêcherait pas l'Évangile s'il était libéré. La seule condition pour la libérer, c'est que John, tu ne prêches plus l'Évangile, on te laisse partir quand tu veux. Il a fait 12 ans de prison. Il aurait pu se décourager d'avoir été emprisonné pendant de si longues années. Mais John Bunyan était un homme de caractère et un homme intègre. Dans sa cellule, il avait un tabouret. Pas la même chose, hein? Un tabouret qui avait 3 pieds. Il décida d'enlever un des pieds pour sculpter une flûte sur laquelle il jouait des cantiques chrétiens. Pendant qu'il était en prison, Bunyan écrivit « Le voyage du pèlerin », qui est une allégorie de la vie chrétienne. Ce livre est le deuxième livre le plus vendu après la Bible dans le monde. Et pour les jeunes chrétiens et pour ceux qui n'ont jamais lu ce livre, je vous invite vraiment à lire « Le voyage du pèlerin ». C'est un livre qui est fortifiant, c'est un livre qui est extraordinaire, parce que ça vous montre tout le combat spirituel d'une façon allégorique, le combat spirituel qu'un chrétien doit vivre avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il donne des noms à ces personnages. Un, c'est évangéliste. L'autre, c'est prédicateur. Un autre, c'est un tel, et ainsi de suite. Et on s'en reconnaît finalement pratiquement dans beaucoup des personnages qu'il décrit dans son livre. Le voyage du pèlerin. John Bunyan, frères et sœurs, aurait pu tout abandonner. Au lieu de cela, il a utilisé ses épreuves comme une occasion de glorifier Dieu. Et en retour, Dieu l'a béni. Par ailleurs, le Seigneur est toujours à la recherche d'hommes et de femmes qui ont suffisamment de foi, de caractère et d'intégrité pour le servir. Il est toujours à la recherche aujourd'hui de gens qu'il peut utiliser pour manifester sa gloire à travers eux. Dans le camp de la mort de Ravensbrück, exploité par les nazis, une jeune femme qui s'appelait Corinne Ten Boom fut forcée d'endurer des atrocités au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Elle fut privée de nourriture, battue et menacée. Elle a été forcée de vivre avec les poux, les puces et les rats. Elle assistait à la mort de sa petite sœur cadette. Elle a vu des milliers de juifs et de sympathisants juifs être brûlés dans des fours crématoires. Il est vrai qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle et des milliers d'autres étaient contraintes de supporter de telles horreurs. Mais Corinne Ten Boom avait la conviction profonde que le temps qu'elle serait là, elle ferait en sorte d'être le meilleur témoignage chrétien qui soit dans ce camp. Dans la baraque où elle était, la baraque numéro 28, où elle vivait, elle a commencé une étude biblique clandestine et elle est venue en aide à beaucoup d'autres personnes qui traversaient des moments difficiles et qui voulaient tout abandonner. Elle finira à la fin de la guerre par être libérée. Plusieurs auraient nourri de l'amertume après avoir vécu ce genre d'expérience. Cependant, Corrie ten Boom fut utilisée par le Seigneur d'une manière puissante après la Seconde Guerre mondiale. Elle a porté le message de l'Évangile partout dans le monde et des dizaines de milliers de personnes ont découvert la puissance de la grâce de Dieu et de son pardon. Elle a pris une situation impossible et l'a utilisée pour glorifier Dieu. Je vous invite à lire le témoignage de Corrie ten Boom. Elle avait sa Bible quand elle est rentrée dans le camp de concentration nazi. Et elle priait, « Seigneur, Seigneur, ne me prive pas de ta parole. » Et elle était, ils étaient pratiquement nus, ils passaient devant des gardes pour être sûrs qu'ils ne rentrent rien. Elle avait sa Bible et personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. C'est un miracle incroyable, ça. Et elle rend témoignage de ça. Et le Seigneur, il n'a pas permis de garder sa Bible pour rien. Elle a donné des études bibliques de façon clandestine, pendant la guerre, dans ce camp de concentration, dans sa baraque. Elle-même, quand elle est passée, elle s'est fermée les yeux quand elle est passée, qu'elle raconte avec sa Bible. Et elle dit, il n'y a personne qui m'a arrêté, il n'y a personne qui m'a dit, hey, donne-moi ça ici, personne n'a vu. Extraordinaire. C'est magnifique. Ça fortifie votre foi, ça, non? Ça fortifie la foi de quelqu'un. Tu dis, Seigneur, je viens juste de te prier il y a à peu près 30 secondes, Seigneur, que je puisse rentrer avec ma Bible, que personne ne me l'enlève. Et je passe, personne ne l'a vu, personne ne m'a intercepté. Tu as déjà répondu à ma prière. C'est extraordinaire. Hey, que ça fortifie votre foi. Frères et sœurs, il en est de même avec Joseph. Potiphar a vu en Joseph quelqu'un de différent. Il a vu quelque chose de différent dans la vie de Joseph. Et Joseph n'a pas besoin de souffler de la trompette pour dire à Potiphar quel grand croyant il était. La vie qu'il manifestait tous les jours proclamait la gloire de Dieu. Et Potiphar a vu par lui-même jusqu'à quel point Dieu était présent dans la vie de Joseph. Et cela a ouvert la porte à Joseph pour partager sa foi à Potiphar. Et frères et sœurs, il devrait en être de même pour nous. On n'est pas nécessairement obligé d'être des évangélistes qui connaissons des méthodes par cœur pour évangéliser, mais simplement notre témoignage de vie devrait être une parole de l'Évangile vivante. Les gens disent, hey, il y a quelque chose que lui, ce gars-là, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas. Hey, cette personne-là, elle a quelque chose que moi, je cherche depuis toujours. Et qu'on soit attiré. C'est ça quand Jésus dit, j'attirerai vers vous les gens. Jésus dit, si votre lumière brille devant les hommes, ils verront vos œuvres bonnes et ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, Dieu a permis en terminant que Joseph vive les choses difficiles dans sa vie afin qu'il devienne l'homme qu'il désirait qu'il soit. Les épreuves de Joseph et les épreuves que vous et moi nous traversons ne sont jamais faciles et ne seront jamais faciles. Lorsqu'une mère perd un fils, lorsqu'un père perd un enfant, c'est jamais, jamais facile. Jamais. Lorsque des épreuves terribles, on doit recommencer à zéro dans la vie, c'est jamais, jamais facile. Et il faut avoir beaucoup de foi pour être capable de surmonter ces épreuves et de dire, je ne peux pas croire, Seigneur, aide-moi à croire que le meilleur est à vie et à venir. Quand tu as repris mon fils, Seigneur. Quand la vie a repris ma fille, Seigneur. Aide-moi à croire, Seigneur, en tant que croyant, que le meilleur est à venir. C'est pas facile. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu connaît la limite qu'on peut supporter pour nos épreuves. Et qu'il ne permettra jamais qu'il arrive quoi que ce soit de nos forces. Et le Seigneur, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Frères et sœurs, nos épreuves nous enseignent la valeur des larmes. Nos épreuves nous rendent utiles pour l'œuvre de Dieu. Nous ne devrions jamais chercher à fuir les épreuves de la vie. En fuyant nos épreuves, nous fuyons la meilleure des bénédictions que Dieu nous réserve dans la vie. A.W. Tozer a dit ceci, « Nous aurions tort de penser que Dieu ait jamais utilisé puissamment quelqu'un sans d'abord l'avoir éprouvé profondément. » Charles Finney a prêché l'Évangile au 18e, début du 19e siècle. Et parce qu'il prêchait l'Évangile, comme elle devait être prêchée, on lui a fermé toutes les portes des églises parce qu'il dérangeait beaucoup trop de monde. Il était en train de réveiller les morts dans l'église. On lui a fermé toutes les portes de l'église. Il a vécu des choses épouvantables. Il a perdu sa femme quelques années après s'être marié. Il a vécu des choses épouvantables, mais Dieu le préparait. Et le plus grand réveil qui est arrivé aux États-Unis, c'est à travers Charles Finney. 500 000 personnes durant la période de Noël se sont converties suite à sa prédication. Il a prêché dans la ville de New York, un réveil qui s'est produit. Tous les cafés ont fermé, tous les bars ont fermé, tous les théâtres ont fermé pendant 3 ans. Mais quelle souffrance, quelle épreuve il a dû traverser pour être prêt à assumer ce grand ministère que Dieu lui réservait. Et Dieu a agi avec puissance à travers lui. Il pleurait la mort de sa femme depuis 3 mois. Et en prière, Dieu lui a dit, « Hey, Charles, est-ce que tu pleures pour toi ou si tu pleures pour ta femme? Si tu pleures pour ta femme, tu n'as pas de raison, puisque tu sais où elle est au ciel avec moi. Si tu pleures pour toi, tu ne trouves pas que c'est égoïste? Toutes sortes de petites épreuves qui lui sont arrivées comme ça pour lui faire réaliser que Dieu sait mieux que n'importe qui ce que nous devons vivre. On est chrétien, mais on reste humain, et ce n'est pas toujours évident. Frère, nous voulons être utilisés, mais nous ne voulons pas les maux de tête qui viennent en premier lieu. Et je crains que nous ne puissions pas avoir l'un sans l'autre. Il semble être fait pour marcher la main dans la main. Et voici un dernier mot d'encouragement. Peu importe jusqu'à quel point vous vivez des moments difficiles, si vous êtes sauvés, ce qui était bon pour Joseph, il est également pour vous. L'Éternel était avec lui. Vous n'êtes donc pas seul à affronter vos épreuves. Vous ne devez pas marcher dans vos vallées de larmes tout seul. Rappelez-vous que chaque étape que vous franchissez, vous êtes dans les bras du Père Céleste et que Dieu veille sur vous, vous protège, vous fait progresser dans votre foi pour faire en sorte qu'un jour vous ayez l'assurance d'être promu dans la gloire de Dieu. Amen.